gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Et bienvenue sur Radio Canu 102.2 ou radiocanu.org dans la magnifique émission super géniale qui s'appelle La Causerie. Voilà, c'était pour nous ça.
Ok.
Et donc ce soir dans le studio, autour de la table, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fabien.
Salut.
Stan.
Bonsoir.
Et évidemment à la technique la plus merveilleuse, la plus belle, la plus sensationnelle, Clara.
Merci, bonsoir.
Et Jonathan.
Jonathan qui est en grande forme ce soir, comme vous avez pu l'entendre.
Mais totalement, mais voilà. Et puis bon, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur radiocanu.org/lacauserie. Excusez-moi, sur nos blogs, sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Voilà. Et aussi, nous envoyer des mails à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu tout attaché, et tout en minuscules, et nous retrouver sur un réseau social bleu et blanc qui ne comporte pas d'oiseau dans son sigle.
Et qui est la propriété d'un certain Marc Z.
Marc Z.
Pour ne pas le citer.
Oui. Et ce soir, donc, Stan, tu commences en nous parlant de WikiLeaks Revelation.
Vault 7.
C'est
la révélation en fait de
cette
semaine.
Ah oui, c'est beau.
Voilà, je donne un petit. Il faut le dire en plus entre temps.
Faut le dire s'il faut qu'on vienne avec des traducteurs, on le fera, mais, mais prévenez un peu avant.
Donc, oui, moi je voulais vous parler de WikiLeaks. WikiLeaks a publié mercredi environ 8700 documents qui datent entre 2013 et 2016. C'est des documents qui proviennent de la CIA, plus particulièrement du Centre de Cyberintelligence, c'est-à-dire vraiment la partie de la CIA qui s'occupe de la sécurité informatique en fait. Et avant de parler de ça, on va parler un peu de WikiLeaks, parce que c'est important aussi, et parce qu'il y a plein de choses qui se disent et qui s'entendent et qu'on pense croire sur WikiLeaks, et je pense qu'il faut remettre un peu tout ça en place. Donc, dans le sens Wikipédia d'abord, c'est une organisation non gouvernementale créée en 2006, et qui se définit vouloir combattre, entre autres, l'asymétrie d'information entre les pouvoirs publics et les citoyens.
C'est ce qu'il y a sur Wikipédia, il voulait dire.
Voilà.
Ah ok, pardon. Voilà. Okay.
Je t'ai perdu direct, je suis désolé. Elle va être longue cette chronique. Hein. Donc, ils souhaitent combattre la symétrie d'information entre les pouvoirs publics et le citoyen, qui est le plus majoritairement du temps au profit de l'État, et non pas au profit du citoyen. C'est une organisation qui souhaite donner de la visibilité aux lanceurs d'alerte, aux fuites d'informations, avec dans le but de révéler les scandales de corruption, d'espionnage, de violation des droits de l'homme de manière anonyme, afin de présenter la réalité sociale, politique et militaire, et en assurant un maximum de transparence planétaire. Voilà. Donc c'est une belle présentation.
Mais ça paraît sympa.
Ah, mais sur le papier, même au début, je pense que c'est vraiment quelque chose de merveilleux, et c'est pas mauvais non plus. Hein. Tout de suite, on s'en entend. Attention, ce que tu dis tout de suite, c'est pas bien après. Mais non, c'est très bien WikiLeaks, à peu près. Donc, à long terme, WikiLeaks souhaite devenir l'organe de renseignement le plus puissant du monde.
Là, ça devient un peu plus problématique.
Là, cette phrase-là, elle fait un petit peu mal. À tout niveau, en fait, tous les éléments dans la phrase choquent. Moi, dans un premier temps, j'étais vraiment choqué par le plus puissant du monde. Et Fab, Jonathan... aussi est énormément choqué finalement, et c'est vrai par leur organe de renseignement aussi de base. Il y a quelque chose qui est très très.
Bah, il y a quelque chose de l'ordre du je fais au-dessus des peuples.
Oui.
Parce que par principe, un organe de renseignement, bah, ça a pour vocation de cacher des trucs. Donc voilà.
Exactement. Donc cette organisation, ben, comme on vient un petit peu de l'annoncer là, faut pas que le prendre comme quelque chose de merveilleux, qui est un magnifique outil de liberté et de transparence. Pas vraiment. C'est des informations, enfin les informations, donc Wikileaks, hein, pour aussi remettre un petit peu dans l'idée, c'est en partie un site web et qui en gros divulgue des informations donc qui sont récupérées et qui les mettent au grand public. Là. Et donc c'est des informations qui jouent des rôles vraiment importants maintenant d'un point de vue politique. On a même récemment encore le scandale des emails pour Hillary Clinton pendant les élections, qui a ou pas joué, hein, c'est pas le but là d'en parler forcément, mais ça a un impact forcément. Et on peut pas dire que Wikileaks est juste un organisme qui distribue de l'information, non, c'est un organisme maintenant qui pèse et qui a un poids. Qui a un poids, qui aussi on lui... peut-être possible, donc je vais pas dire oui, non, enfin d'un petit lien avec la Russie, c'est dans les suppositions, c'est voilà, c'est WikiLeaks, ça aussi, c'est un comportement maintenant, enfin on parlait pendant la préparation de Snowden qui lui a fait vraiment ça dans le but de lâcher toutes ses informations, il avait des trucs à dire, il a tout donné d'un coup, voilà, j'ai découvert ça, c'est grave, voilà, je veux que tout le monde soit informé. Snowden même c'est pas assez grave, c'est juste je veux que le monde soit informé, oui. Et après décider si jamais vous trouvez que c'est grave ou non.
Il avait jamais eu de position morale, il
voilà.
Avait une position juste de dire ça c'est pas normal, mais c'est au peuple de juger.
C'est au peuple à définir est-ce qu'on accepte ou non de se faire surveiller en fait. C'est juste il faut que les gens soient au courant. Et Wikileaks lui a un comportement un petit peu spécifique avec un petit côté scoop buzz, c'est-à-dire j'ai 15 000 fichiers mais je vous en donne 4 000 aujourd'hui, vous allez voir la semaine prochaine, ça va être fun, ou voir des fois, enfin comme tu disais à la préparation sur les quand ils ont donné des noms.
Ouais, des fois ils vont beaucoup trop loin, c'est ce que je disais, c'est quand ils ont balancé les noms sans filtrer d'espions américains qui étaient infiltrés dans différents pays, il y en a quand même qui se sont fait dézinguer. Alors on peut ne pas aimer les espions américains, enfin la méthodologie était un peu étrange quand même, quoi. Enfin voilà.
Et puis il y a le fait que ces informations ne sont pas données gratuitement, elles sont vendues.
Certaines oui.
Mais voilà, pas toutes, mais certaines. Donc il y a aussi ça dans Wikileaks, il y a à un moment donné le partage de l'information est lucratif.
Enfin, peut l'être, quoi.
Peut l'être. Et Wikileaks aussi, enfin, il faut plus le regarder. Donc maintenant, on peut pas le regarder comme un simple média. Il faut le voir comme un acteur de la scène politique. Et un acteur de la scène politique qui se veut transparent, mais dont personne ne peut vraiment dire s'il est transparent. Et il y a deux, trois choses où on pourrait se dire bah, qu'il ne l'est pas forcément, parce que au sein de Wikileaks, il y a des droits de veto, dont celui du rédacteur en chef, donc il y a le droit de dire si une information doit être diffusée ou non.
C'est Julian Assange, hein, c'est ça le
rédacteur. Et c'est Julian Assange, voilà. Je vais y venir juste après, mais juste pour cette partie-là. Oui, comme on vient de dire, il y a des informations à ne pas révéler. Il y a des informations qu'on doit dire, bah non, ça va risquer des vies humaines, donc on ne peut pas le dire, etc. Mais vu qu'il y a ces droits de veto, vu qu'il y a ce système-là, personne ne peut dire à l'heure actuelle que Wikileaks est complètement clean, en fait. Voilà, donc c'était juste pour revenir un petit peu là-dessus.
Voilà. Et puis pour faire un parallèle avec ce qui est souvent reproché à Wikileaks en ce moment, c'est que finalement, ils trouvent rarement des trucs sur la Russie. C'est pour ça que les liens supposés sont un petit peu mis en avant, parce que autant ils sortent énormément de choses sur les États-Unis, sur le Venezuela, sur l'Iran, sur la Syrie, et étonnamment, c'est à croire que la Russie n'a pas d'informatique, parce qu'ils ne trouvent pas grand-chose, quoi. Et ça surprend beaucoup les observateurs qui disent, mais comment c'est possible que jamais ils sortent de choses en dehors de d'autres pays, mais que la Russie n'est pas au chapitre, quoi. Ouais. Non, mais c'est pour rappeler ça.
Et donc, on a parlé du rédacteur en chef qui avait un droit de veto. Le rédacteur en chef, c'est Julian Assange. Et Julian Assange, donc, c'est le probable fondateur. En fait, on ne sait pas, il ne s'est jamais déclaré comme tel, mais on sait qu'il fait partie de ceux, en tout cas, qui étaient là à l'origine, et qui c'est le principal porte-parole. Je vais en parler aussi un petit peu, parce que ça rejoint cette idée de... On ne peut pas dire est-ce que c'est clean ou pas. En aucun cas, on dit maintenant, c'est pas bien. Oui, c'est juste, il faut garder en tête que Faut rester intelligent face aux informations qu'on nous donne.
Faut être critique.
Faut savoir toujours être critique par rapport à ça. Et donc juste Julien Assange, lui, il est réfugié depuis 2012 dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, parce que la justice suédoise révèle, enfin, le suspecte de délit sexuel envers de délit sexuel. Alors, je sais plus comment on avait dit, enfin, le mot, c'est délit sexuel.
C'est le viol surprise.
Viol surprise.
Enfin, l'idée donc, c'est qu'il a enlevé son préservatif pendant l'acte sexuel en mode lol.
Sans prévenir la partenaire,
voilà. Donc il est, il y a justice suédoise sur le dos pour ça, et il est aussi sous poursuite judiciaire sous scellé pour espionnage mené par les autorités américaines, qui lui, du fait de ses activités en tant que fondateur de WikiLeaks, l'expose à des, c'est pas qu'un procès, c'est à la peine capitale.
Et c'est lié justement aux fameux espions qui ont été.
Oui, c'est que. Ouais.
Bah oui, en fait, il s'est mis en forme d'ennemi d'État, en fait.
Bah, c'est ça. Il est considéré par certains, enfin une partie de la politique américaine, comme un traître à la,
traître à la nation, complètement.
Donc, ce qui s'est passé le 13 août 2015, c'est que les accusations d'agression sexuelle en Suède sont prescrites. Alors, pas la totalité, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, Julien Assange, à ce moment-là, accepte, en fait, de dire, bah, je veux bien aller témoigner. Moi, ça me pose pas de problème. Enfin, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec ces deux personnes. Il y a quelque chose, il y a un procès, il dit ok, je veux bien aller au procès, mais par contre en fait non, je vais pas y aller, parce que je peux pas y aller par mes moyens, parce que je peux pas moi sortir, aller à l'aéroport, aller en Suède, etc. Enfin, il y a toujours Scotland Yard, donc la police anglaise, qui surveille nuit et jour l'ambassade de l'Équateur, donc ça a coûté 7 millions d'euros d'ailleurs cette histoire. Ça avait fait beaucoup d'histoires aussi quand ils ont révélé combien ça avait coûté la surveillance de Julien Assange. Et donc il y a Scotland Yard qui est prêt à intervenir. Dès qu'il sort de l'ambassade, il est directement arrêté. Julien Assange avait demandé à un groupe de travail de la un groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU de délibérer un petit peu son cas, de savoir si est-ce que oui ou non il a le droit de se déplacer librement et donc d'aller jusqu'en Suède, aller à son procès, etc. Le 5 février 2016, ce groupe de travail avait dit que oui, il devait retrouver sa liberté de mouvement. Mais c'est un groupe de travail qui n'a aucun poids politique et juridique. Donc là encore, c'est un coup monté, est-ce que c'est un complot, est-ce que c'est tout ça, enfin, c'est pas la question, c'est pas un problème, c'est juste que, voilà, soyez critique, soyez intelligent, et on prend pas tout de bêtement, méchamment, et en se disant c'est parce qu'il a fait des choses qui peut dire bien aussi, parce qu'il a révélé des informations très importantes, c'est pas que pour ça que ça en fait forcément un mec bien, voilà, et peut-être que c'est un mec très très bien, hein, j'en ai aucune idée, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on en a aucune idée en fait. Je vais revenir à ce que je voulais parler au début, donc, qui est la fuite des documents. Donc la fuite des documents, c'est des documents. Oh, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Voilà. WikiLeaks révèle que la CIA, comme de par hasard, nous espionne et peut nous surveiller. C'est
un peu son job.
C'est son job déjà. C'est complètement son job. Et puis bon, bah, Snowden nous avait déjà apporté la preuve. Enfin voilà, Rien de fou, ce ne sont que des preuves supplémentaires, c'est essentiellement basé justement sur quel logiciel permet de faire quoi, quelles sont les failles.
Oui, parce qu'on peut peut-être rappeler, là ça concerne vraiment les moyens de surveillance en fait.
Oui, et c'est de la surveillance ciblée, c'est pas de la surveillance massive, c'est de la surveillance ciblée, et oui, là c'est vraiment des documents de... Comment on fait ?
Et c'est au travers des écrans de télé de certaines marques, etc.
On va la citer parce que voilà, c'est les écrans de télé Samsung qui sont les écrans connectés qui ont des grands problèmes de failles de sécurité, mais c'est aussi vos téléphones Android, iPhone, Windows Phone. Ça va être vos caméras connectées chez vous pour vous surveiller quand vous êtes en vacances. Enfin, toutes ces choses-là.
Tout ce qui est relié au réseau Internet.
De toute manière, tout ce qui est connecté.
Voilà, tout ce qui est connecté.
Et là, il y avait aussi quelques notions donc pour infiltrer. Enfin, ils expliquaient certaines méthodes pour infiltrer des réseaux non connectés, donc avec des choses cachées sur des CD qu'on croit vierges, etc. Enfin bon, c'est un peu... Voilà, c'est toutes ces explications-là.
Du mouchard de base. Quoi.
C'est du mouchard de base.
Voilà, et pour être clair, ça veut pas dire, quand je dis c'est son job, ça veut pas dire que je suis fan de la CIA, mais c'est juste que quand on a un service de renseignement, comme la DGSE en France ou d'autres, ils servent à ça. C'est-à-dire que leur métier, tout le temps, c'est d'aller espionner des gens. C'est leur boulot.
C'est leur boulot, c'est ce qu'on leur demande. Voilà. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Est-ce qu'on est d'accord ou pas, enfin, c'est pas le problème maintenant. Mais oui, voilà, c'est leur travail.
Mais du coup, là, ces failles, en fait, si elles sont exploitables par WikiLeaks, et donc ils sont des failles censées normalement être exploitées par de véritables organismes de renseignement, organe de renseignement, c'est peut-être qu'il y a un risque aussi que d'autres personnes puissent exploiter ces failles.
Bah, c'est ça qui est grave, en fait. Donc, c'est des failles qui sont exploitées par la CIA, dont Wikileaks a eu les informations. Mais à quel moment un organisme de renseignement qui est censé être quand même la CIA, ça fait des années qu'on les voit dans les séries télé, c'est génial comme truc, à quel moment ils ont pu être assez naïfs pour se dire ces failles-là, il n'y a que nous qui les utilisons. C'est ça qui est grave, en fait. C'est pas que, oui, comme on dit, c'est leur métier d'exploiter des failles et de surveiller des gens. Mais c'est de se dire que, on est les seuls à avoir compris qu'il y avait cette faille-là. Et pour en revenir, comment est-ce qu'ils ont eu ces failles-là? Donc, il y en a certains qu'ils ont découvert eux, parce qu'ils sont forcément des informaticiens, des hackers, etc. Mais aussi des failles qu'ils ont achetées à des sous-traitants. Donc, c'est des sociétés qui ont découvert les failles et la CIA est arrivée, donc sûrement par un biais X et Y. Pas directement en mode, on est la CIA, vendez-nous les failles. Mais, c'est des sous-traitants, donc ils ont, leur boulot à eux, c'est de vendre des failles, donc ils les ont vendues à plein d'autres gens. Et à quel moment la CIA se dit, non, c'est bon, il n'y a que nous qui les avons, ces failles, donc il n'y a que nous qui pourront les utiliser. Et c'est grave, en fait, en termes de sécurité, même pas mondiale, en termes de sécurité, là, on va dire, si je suis un Américain, ça m'inquiète un petit peu de me dire que la CIA, en fait, on n'a strictement rien à foutre des gens dans le pays. Parce qu'on est totalement. Un Américain peut être surveillé dans ce cas-là par n'importe quel organisme étranger. Mmh. Et voilà. Et je pense pas qu'ils sont naïfs à ce point-là, en fait, parce que c'est pas possible d'être naïf à ce point-là.
Je pense que c'est une prise de risque. Mais qui partait du principe que ce qu'ils savaient faire, d'autres sûrement aussi, mais que ça les arrangeait bien que eux sachent le faire.
Oui, mais
au final, le reste.
C'est là où il y a un grand problème, et c'est là où je m'insurge un petit peu, c'est que soit ils sont complètement naïfs, et dans ce cas-là, c'est très inquiétant.
Ah non, ils sont cyniques, je pense.
Soit, dans ce cas-là, ils ont fait un pari en se disant, c'est important. Mais c'est quand même grave parce que le principe de la CIA, c'est de protéger, c'est de surveiller, c'est d'informer, mais c'est quand même de protéger.
Officiellement.
Et donc, dans l'officialisation de leur. Enfin, là, ils ne font pas en fait leur boulot officiel parce qu'ils ne protègent pas le pays, leur pays. Et après, je comprends pas comment est-ce qu'on en arrive à même si je voulais réfléchir bête et méchant, si je voulais me dire c'est des Américains, ils font ça pour les États-Unis, ils font pas ça pour les autres, etc. Dans ce cas, tu préviens au moins les sociétés américaines des failles en interne.
Oui.
L'espionnage industriel, exactement.
Je pense que ça révèle un truc tout bête, c'est que les services de renseignement de tous les pays se sentent au-dessus des nations et au-dessus des peuples. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'au final, ils se disent, si j'ai besoin aussi d'espionner sur le sol américain, autant que les failles existent toujours. Et que du coup, ils laissent faire parce que ça les arrange. Et qu'en fait, en réalité, c'est là qu'ils n'ont aucun contrôle démocratique, parce qu'ils sont au-dessus même de la démocratie bourgeoise installée partout. Et qu'en fait, ils s'en foutent, quoi. C'est-à-dire que tant que ça les sert eux, j'ai l'impression qu'en fait, ils laissent faire, quoi. Et ça roule. Et en fait, ça démontre une fois de plus que ce qu'avait dit Snowden, c'est que les services de renseignement américains, mais c'est valable aussi en France et en Europe, et partout d'ailleurs, ont aussi pour vocation, ce qui n'est pas normalement leur but, d'espionner sur le territoire.
Oui.
Voilà. Et que donc, du coup, ils laissent les failles se faire parce que ça les arrange. Et ça, je pense qu'il y a un peu de ça derrière, quoi. Et c'est grave, quelque part, parce que ça veut dire qu'il y a une sorte d'agence supranationale qui fait ce qu'elle veut, quoi.
Et juste pour dire sur. Parce que là, on parle et on se dit, oh là là, mais en plus, tout le monde. Alors, déjà, oui, dans tout logiciel, dans tout ce qui est connecté, il y a des failles, c'est obligé, c'est normal, ça arrive et ça arrivera tout le temps, et on répare ça au fur et à mesure. Les failles qui ont été utilisées là, pour la majorité, sont des failles très basiques. Donc, c'est vraiment quelque chose que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde utilisait. Enfin, beaucoup de personnes qui veulent utiliser des failles, forcément. Et juste pour finir quand même sur le côté un peu cool de Wikileaks, donc ils ont proposé directement leur aide en fait, et de vraiment donner les fichiers, les dossiers, les informations les plus complètes possibles sur c'est ça les failles qui sont utilisées chez vous, donc réparer et pas donner à tout le monde directement l'ensemble des failles, parce qu'il ne fallait pas non plus que ça parte complètement en vrille, mais donc dire, je sais pas, à Microsoft, tenez, ça c'est le document avec toutes vos failles, allez-y. Et même si pour le coup en fait, les entreprises n'ont pas du tout attendu, elles ont vu leur nom dans le fichier, elles sont toutes précipitées et toutes elles ont dit attends, nous on a déjà corrigé ça, on a déjà fait ça, tac 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 tac. Mais voilà, mais ça aurait presque été pourquoi pas le boulot de la CIA. Enfin, c'est bizarre, quoi. Moi ça me voilà. Et voilà.
Ok. Et voilà.
Esprit critique partout, tout le toujours. Temps en fait, quoi.
Toujours.
Musique.
Allons-y.
Musique.
Allez.
Donc c'était Learn to Fly des Foo Fighters qui était repris par un groupe, enfin par un, plein de gens, c'est 1000 musiciens, et c'est Rocking a Thousand. A Hundred, je sais plus.
A Thousand. Rocking 1000.
Voilà. Et. Vas-y, je te laisse enchaîner tout de suite, ça va aller plus vite comme ça.
Vas-y, oh. J'arrive.
Allez.
Tu voulais parler d'une journée en particulier.
Ouais, c'est ça. En fait, le lundi 6 février, donc c'était il y a un petit mois, c'était la 14e journée internationale de lutte contre l'excision et que je me suis dit que tiens, c'était l'occasion aussi d'en parler ici, parce qu'on en parle rarement, même dans les milieux un peu militants, etc. J'en entends rarement parler. Ouais. Donc je vais vous citer pas mal de choses que j'ai trouvées sur le site dont je vous reparlerai à la fin, mais c'est Excision Parlons-en, c'est une campagne un peu spécifique qui est lancée en France. Donc c'est excisionparlonsen.org, hein, n'hésitez pas à y aller. Donc déjà l'excision. Alors l'excision c'est pas juste un truc, c'est plusieurs mutilations dirons-nous. Alors il y a la clitoridectomie qui elle est l'ablation partielle ou totale du clitoris. On a l'excision, qui elle est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans ablation des grandes lèvres. On a l'infibulation, qui est le rétrécissement de l'orifice vaginal par ablation et accolement des petites lèvres et ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris. Et à toutes ces mutilations, vous pouvez rajouter les mutilations qui ne sont pas classés, dirons-nous, dans lesquels on retrouve toutes les autres interventions nocives ou potentiellement nocives pratiquées sur les organes sexuels féminins à des fins non thérapeutiques. Voilà. Alors, ça touche qui, finalement, hein ? C'est... Alors, on s'imagine bien que ça touche les femmes, hein, les filles. Et effectivement, la majorité des cas, c'est des filles qui sont excisées avant l'âge de 15 ans. Dans la moitié des 29 pays qui pratiquent encore l'excision, parce qu'il y en a vraiment 29 d'identifiés. Alors c'est pas 29 pays dans leur globalité. Alors certains pays, ce sera une grosse partie de la population femme qui sera excisée. Par contre dans d'autres pays, ce sera des petites communautés. Je me souviens du Guatemala. Au Guatemala c'est pratiqué, mais dans une toute petite communauté. Mais c'est pratiqué. Donc l'excision, elle est étendue quand même à pas mal dans le monde, finalement, dans 29 pays déjà.
Déjà, il faut sortir de la tête que c'est pas uniquement en Afrique.
Ah non, clairement
c'est
pas.
Amérique
non.
Du Sud, Asie,
Indonésie, Soudan du Nord, Égypte, j'ai dit Guatemala aussi, enfin, Égypte, enfin, il y a plein de pays, quoi. Donc déjà 29. Donc dans la moitié de ces 29, la majorité des filles qui subissent les mutilations sexuelles féminines, c'est avant l'âge de 5 ans. Voilà. Donc dans le monde, hein, on est à 200 millions de femmes qui ont subi une forme de mutilation sexuelle. Sur le continent africain, c'est une femme sur trois qui en a été victime. Et le chiffre là de 200 millions que je vous ai donné date de 2016. En 2014, on était à 140 millions. Alors, il ne s'agit pas, je ne pense pas, selon les chiffres qui sont donnés, c'est pas en deux ans, d'un coup, il y a 60 millions de femmes qui ont été excisées. Je pense qu'il y a aussi une chose à prendre en compte, peut-être que je me trompe, mais c'est la prise en compte de ces choses-là. La reconnaissance, en fait, de ces mutilations-là. Et ben, forcément, quand on commence à creuser, il y a forcément de plus en plus de choses qui remontent. Donc je pense que c'est lié à ça. Hein. Enfin, il n'y a pas eu un emballement d'un coup. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? En France aussi, on estime à 53 000. Alors le dernier chiffre, moi c'était 60 000 de le nombre de femmes qui vivent en fait en ayant été excisées et qui vivent en France. Voilà. Et en 2009, le Parlement européen lui estimait que 500 000 filles et femmes excisées vivent dans l'Union européenne. Voilà, et que chaque année, dans l'Union européenne, il y a 180 000 filles qui risquent l'excision. Alors encore une fois, ce sera majoritairement, enfin je pense que c'est pas pratiqué en Union européenne, Et c'est ce qui rejoint la campagne qui a été lancée Excision, parlons-en. C'est qu'en fait, c'est des jeunes filles, alors ça peut être des enfants, mais ça peut être des ados, où pendant les vacances d'été, on va dire, bah tiens, on va partir en vacances au pays des parents et tout ça. Et c'est là que va se passer les excisions pour les situations, enfin pour les femmes et les filles qui vivent en Europe et en France. Donc voilà. Alors pourquoi on pratique ces horribles mutilations? Eh ben, c'est toujours le patriarcat. Hein. Il n'y a pas d'autre nom. Alors celui-ci, il va se retrouver sous différentes formes, hein, parce que le maintien de cette pratique dégueulasse, il est soutenu par des croyances religieuses, par des croyances culturelles et sociales, et les raisons invoquées par les groupes qui pratiquent l'excision, c'est chacune ont leurs raisons en fait. Donc il y en a vraiment, certaines ça va être du religieux, d'autres vont dire que absolument dans la religion on trouve pas du tout ça. Donc voilà, vraiment c'est il y a rien d'homogène en fait, hein, c'est l'excision, il y a rien d'homogène. Sur un seul pays, c'est pas homogène, et à travers le monde, il y a rien d'homogène. C'est plein de situations différentes et d'approches différentes.
Donc en fait, pour résumer jusque là, hein, ouais, c'est quand même une pratique qui se fait de différentes manières, donc sans aucune règle, de manière très hétérogène et sans finalement qu'on le sache réellement. Enfin, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'informations précises sur le sujet. Donc au final, rien que là, c'est fait dans le secret presque aussi. Quand tu parles de partir en vacances ou de voilà, il y a quand même des pays qui le condamnent. Donc oui, ça va se faire dans des pays qui le condamnent moins ou enfin.
En fait, ça change. En fait,
il y a vraiment un côté.
Pas tant que ça. Vraiment, il y a des pays où c'est. Enfin, je le détaillerai peut-être un petit peu plus tard, mais il y a des pays où c'est des choses pour passer par exemple l'âge adulte. Donc là, c'est assez officiel en fait. Par contre, il y a des pays où la législation a changé. Bah là, ça devient moins public. Parce qu'avant, c'était un moment public en fait. C'était une fête hein, presque. Là, maintenant, on a tendance, enfin, des parents ont tendance à faire ça de manière effectivement un peu plus dans le secret. Mmh. Ça ne veut pas dire totalement caché, mais voilà, dans un milieu, on le fera plus en public comme on pouvait le faire avant, etc., etc. Donc les choses évoluent aussi. Hein. C'est pas qu'un tableau sombre, malheureusement pour les femmes excisées, si, mais ça avance, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Bah si, puis c'est montré qu'à un moment donné, on s'aperçoit bien que cette pratique, elle ne peut plus rester sans être dénoncée.
Il faut la visibiliser.
Oui. Et que, voilà, qu'elle est... je pense que tu devais en parler, mais l'histoire que tu disais des jeunes filles qui partent en vacances, c'est aussi l'histoire d'une mannequin qui...
Non, c'est encore différent.
Oui.
C'est encore différent, mais je vous en parlerai vite fait après.
Excuse-moi.
Non, c'est pas grave. Alors, les justifications, justement, pour expliquer la pratique de l'excision, hein, c'est évidemment le contrôle de la sexualité des femmes et le maintien de la domination sexuelle, hein, de la domination masculine, pardon. Et donc certains justement disent que l'excision, en prévenant le désir sexuel, empêcherait les expériences sexuelles prénuptiales et ensuite les relations adultérines, garantissant ainsi l'honneur de la famille et du mari. Donc on est vraiment là-dessus, hein, c'est le patriarcat pur et dur. Les croyances qui sont liées à la religion. Et ben là, c'est bizarre parce qu'en fait, l'excision existait avant en fait l'apparition de leurs livres dits sacrés et des religions
des
monothéistes.
Des trois monothéismes.
Voilà. Et donc, là encore une fois, c'est très vague. Moi, j'ai lu un imam qui disait mais si on suit bien ce que dit le prophète. Sauf qu'en fait, c'est pas clairement dit. Mais si on veut le trouver, on peut toujours trouver à peu près, je pense, toute justification à des actes.
En Amérique du Sud, il y avait aussi des prêtres qui disaient que c'était dans la Bible.
Voilà.
Non, mais oui. Intégrer ça.
Voilà. Mais justement, et c'est vraiment ce qui est dit, c'est qu'en fait, c'est pratiqué dans des populations musulmanes, dans des chrétiennes, dans des animistes. Donc là, encore une fois, c'est plus complexe. Il y a plus de détails, etc. De différence en fait dans les situations. Il y a d'autres croyances et des mythes qui sont liés, où on dit que l'excision favoriserait évidemment hein, la fécondité, c'est certain évidemment. Ça permettrait aussi d'assurer une meilleure hygiène, hein, forcément. Et ça rendrait les femmes plus attrayantes ou même de leur ôter les parties qu'ils considèrent comme masculines ou dangereuses, telles que le gland du clitoris. hein, parce que ça rendrait masculin le clitoris, tout ça. C'est pas bien. Et donc après, il y a aussi évidemment l'identité, le culturel qui est invoqué parce que il faut faire ça, parce qu'on le fait depuis tout le temps et qu'il faut continuer. Donc après, les risques que tout ça entraîne, je pourrais vous en donner plein, mais il y a des douleurs intenses parce que évidemment, on imagine bien que toute cette zone-là, elle est hyper innervée, etc., et que ça crée. Enfin, ça crée des douleurs intenses, ça peut être des saignements, ça peut aller, on n'oublie pas, jusqu'à la mort, parce que les hémorragies qui sont pas soignées, qui sont mal soignées, ça peut mal cicatriser, ça va faire des infections. Mmh. C'est une horreur, enfin c'est une horreur quoi.
Et puis c'est, enfin, bah après. En tant que femme, on va dire, en m'imaginant un petit peu ce que ça peut faire, faut pas oublier que en cas de mutilation ou en cas de couture, après, ça veut dire que il y a aussi la possibilité. Enfin, le corps humain, il est quand même fait pour s'auto-nettoyer, s'auto-combattre les agressions extérieures, etc. Et donc, si les femmes sont faites de cette manière-là, avec généralement de grandes lèvres et de petites lèvres, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que c'est comme ça que le vagin se protège. Et quand on a tendance à tout couper, à tout recoudre, etc., non seulement pour les accouchements, je pensais, c'est la déchirure doit être horrible, sans parler du fait qu'il manquera des terminaisons nerveuses pour prendre du plaisir, il y a, comme tu disais aussi, d'horribles suites au niveau au niveau des terminaisons nerveuses qui ont été mutilées. Et il y a le fait aussi que c'est un endroit fermé, humide, donc un foyer à infection, c'est une réalité. Hein. Et donc, l'excision, c'est ça, c'est aussi créer un milieu propice à des maladies dérivées. De ça. Donc la santé des femmes ou le fait qu'elles procréent mieux, j'y crois pas trop.
Ah non, mais c'est juste le patriarcat qui essaie de se trouver des raisons pour continuer à dominer les femmes. Hein. Je crois qu'il faut pas chercher de raisons scientifiques et valables. Il y a évidemment aussi des répercussions sur les nouveau-nés. Enfin, il y a des études qui ont été menées. Il y a plein de choses vraiment.
Pour être tout clair, un nouveau-né, il faut que ça passe. Donc déjà, soit c'est très dangereux pour la mère parce qu'il y a une déchirure, et puis on va le dire, c'est que c'est aussi souvent le cas d'écrasement de la boîte crânienne au moment de l'éjection du nouveau-né. Et du coup, quand on écrase la boîte crânienne d'un nouveau-né, en général, ça lui fait pas du bien.
Ça peut le faire mourir.
Bah oui.
Oui, c'est ça.
C'est juste pour qu'on se rende compte que c'est extrêmement grave. Globalement, c'est-à-dire pour la mère, pour la femme, pour le nouveau-né à venir, pour tout le monde en fait. Hein,
c'est exactement ça. Et on ne peut pas oublier évidemment aussi les conséquences psychologiques. Les traumatismes, ça ne s'efface pas. On apprend à vivre avec, mais il faut déjà en prendre conscience, etc. Donc il y a vraiment un boulot à apporter, un soutien à apporter à ces femmes qui est énorme. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Si, un petit peu vite fait sur l'origine justement de l'excision. Hein, c'est pas très clair. Certaines recherches trouvent une origine en Nubie, donc dans la Corne de l'Afrique, hein, dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Égypte et au Soudan, parce qu'on a retrouvé des momies égyptiennes qui présenterait en effet des marques attestant de la pratique. Donc là-bas, il y avait une notion de rang social, etc. Plus on était élevé et plus on était excisé. Et ensuite, ça se serait répandu vers l'Afrique de l'Ouest, à l'Est aussi, vers le Yémen, etc. etc. Et j'ai aussi appris que l'excision, c'était pas une spécificité de là-bas, de l'ailleurs. C'était aussi pratiqué en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Hein, c'était pratiqué jusque dans les années 50. C'était pour traiter des maladies, entre guillemets. Hein, parce que quand vous allez entendre la suite, vous rendrez bien compte que c'est toujours encore le patriarcat. Donc des maladies telles que l'hystérie, bien évidemment.
La fameuse hystériotomie, c'est ça ? Hystériotomie.
Il y a l'épilepsie, il y a les troubles mentaux, la masturbation, bien évidemment, la nymphomanie, parce que aimer le sexe, c'est un problème.
Ni l'hystérie ni la nymphomanie n'existent en fait.
Ce sont
des termes inventés par les hommes.
C'est ça. La mélancolie aussi, quoi de mieux qu'une mutilation pour ne plus être mélancolique. ou aussi pour lutter contre l'homosexualité. Voilà. Et effectivement, il est rajouté sur ces infos-là que aujourd'hui, il n'y en a plus en France. Elles sont liées au mouvement, en fait, migratoire, en fait. Donc voilà. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais vous inviter à vous balader sur le site excisionparlonsen.org. On vous mettra les liens sur le blog. Allez-y vraiment, parce qu'on y apprend plein de choses. Et que, encore une fois, c'est sortir du silence, c'est étaler les choses, en parler, en respectant les victimes, si elles ont envie d'en parler ou pas. Mais en tout cas, le problème, même sans parler des victimes individuellement, elles existent et on le sait. Donc voilà, je voulais aussi vous parler de l'association GAMS. C'est la Fédération Nationale GAMS, qui veut dire Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants. Il y a plusieurs antennes en France. Il y en a une à Lyon. Voilà, donc là encore
et
une fois...
Et on espère peut-être les avoir un jour dans l'émission.
On espère bien. Il y a aussi un site internet et sur Facebook, vous pouvez aussi les retrouver. Et je voulais aussi rajouter que pour les jeunes, les enfants, les ados, on n'oublie pas, il y a le 119, quand on risque l'excision ou qu'on l'a subi, il y a ces numéros-là quand on est plus jeune. Et sans oublier le 39-19, qui est là pour les femmes victimes de violences. Et je crois que ce dont on vient de parler, ça rentre très bien dans ces violences-là.
Et pour les gens qui aiment le cinéma, je voilà. vous conseille de regarder un film qui s'appelle Fleurs du désert, qui est l'histoire, j'ai perdu le nom de la personne.
C'est l'histoire de Waris Diri, qui est né en Somalie, qui a été excisé à 3 ans, qui à 9 ans a fui parce qu'elle était...
destinée
à un mariage forcé. Donc elle a fui, elle est arrivée en Angleterre, à Londres, et c'est autour des 20-30 piges qu'en fait elle se rend compte de ce qu'elle a subi, quoi. Donc c'est aussi là toute l'importance de faire aujourd'hui tout un travail, parce que même les gens qui l'ont subi il y a 5, 10, 15, 20 ans, voire plus, eh ben c'est des traumatismes qu'on peut garder, et que là encore une fois c'est pas un truc qui va se faire en un claquement de doigts, ça va demander beaucoup de temps, mais si ça demande de temps, il faut bien commencer à un moment donné, et il y a beaucoup de boulot qui est fait vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé des sites en Inde, il y a des collectifs qui se battent, au Mali, au Kenya, enfin voilà.
On les mettra tous sur le blog,
ouais, évidemment.
Ça permettra aux gens d'aller voir et de se rendre compte que c'est un combat mondial et international.
C'est ça, international.
Peut-être rapidement, désolé, mais... À un moment donné, la mutilation sexuelle, c'est clairement pour empêcher les gens d'avoir du plaisir. Je suis désolée, on le voit dans toutes les cultures où c'est pratiqué. Finalement, il y aura des gens pour dire non, stop au fait qu'on touche à mon corps. Voilà.
C'est ça.
Je dirais, rappeler juste un truc, c'est qu'un enfant, c'est un individu, et que le respect du corps d'un individu, quelles que soient les raisons pour lesquelles on veut transformer son corps, eh ben, on attend qu'il soit adulte.
Voilà.
Sauf si c'est médical.
Bah oui, évidemment.
Non, mais
quand
voilà.
Quand il y a besoin médicaux, c'est d'accord. Je voulais dire, pour tous ces trucs qui sont hors besoin urgent médicaux, bah voilà, c'est tout. On respecte l'individu.
Eh ben, on écoute de la musique. Ça va être une grosse fracture hein, par rapport à tout ce qu'on vient de parler.
mais c'est pour respirer un peu.
C'est ça, c'était pour respirer. Alors montez bien vos sons.
Allez. T'écoutes quoi là ? C'est le dernier stu ? Fais-moi écouter, s'il te plaît. C'est le dernier scoop, là. Fais-moi écouter deux secondes.
Mais non, putain.
Le stup pousse, papa reste in peace. J'ai vu trop de trucs atroces, la tête coincée dans la matrice. Dans le trou, pas d'actrice, mon âme est pleine de cicatrices. Tes paupières se plissent, énergie vociférateuse. Le crew te fait des croches, pas coûte, ça va trop vite. Ça c'est ma nouvelle stup, attaque altruiste, anti-médiatique. Le truc est bandé comme un arc, tendu comme une catapulte. T'écoutes le groupe culte qui refuse le monde adulte. On est le flip, flip, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres. Falloir vous réveiller, car nous sommes l'homme d'un stup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera
les guerres sur la terre.
Y'a des gens qui pensent que l'être humain il est mauvais,
qu'il est méchant,
qu'il changera jamais, bref qu'il est mauvais.
Si les gens pensent ça, on va droit vers la guerre.
Et si on va droit vers la guerre,
y'a plus qu'à faire ses prières, alors pense pas ça.
Pense pas que l'homme est mauvais,
il est bon comme moi. À part quand j'étais enfant, on décapitait les mouches, torturait les fourmis. Oui, je me vengeais sur ceux qui étaient plus petits.
On est le flic, fou, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'homme d'un stup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'homme d'un stup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
Les petits cris au secours, la peur pète le sort. Où qu'il est dans cet amour qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Faut que tu t'encarres, trip à mort.
Ma clique a vraiment trop de cœur. Je check les bisounours, un cocard pour les prédateurs.
Tes rêves se barrent en saucisse, faudrait que ça cesse. Ouvrir le vasistas,
tu ronges ton os. Pense qu'à tes fesses seul dans la populace.
Le businessman crame,
prêt à tout pour de l'oseille.
Le king prend le chrome,
réveille le bon gars qui sommeille.
On est le flip-flip-fou, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'homme d'un stup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flip-flip-crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'homme d'un stup,
la ligue anti-réactionnaire.
Et vous... Ouh, pardon, j'ai mon casque un peu fort.
Pardon. Ça pour profiter au maximum.
Voilà. Bah ouais, désolé. Alors, vous êtes toujours dans la causerie hein, sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter un titre de Stupéflip en featuring avec Colette. C'est la petite fille qui crie. Et le titre, c'était Understup. Et c'est issu de leur dernier album. Et bon... ouais.
C'est quoi le titre du dernier
album ? Virus. Alors, je vous le dis vraiment, si vous kiffez un petit peu, vous allez vraiment très vite être dépendant ou dépendante de ce CD. Moi, je le trouve très très bon. Mm. Bref, allez, on continue. Fab, tu voulais nous parler de ces salauds d'abstentionnistes.
Ouais. Non, en fait, je vais faire très court parce que c'est pas la peine de faire des kilos. Vous savez tous hein, que l'abstention, bah, aujourd'hui, on n'arrête pas de vous dire que c'est mal. Hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas voté, c'est mal. Si vous, voilà. Et puis, tout est la faute des abstentionnistes. C'est-à-dire que le fait que le fascisme monte, c'est la faute des abstentionnistes. Les populistes qui montent, c'est la faute des abstentionnistes. Il pleut dimanche, c'est la faute des abstentionnistes. Donc voilà, c'est toujours la faute des abstentionnistes.
Et en les fait, récoltes ont été mauvaises.
C'est la faute des abstentionnistes.
Ah, okay. Voilà. Ah, les salauds.
Et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question. Vous savez qu'il y a eu un peu plus d'abstention à cette élection qu'aux précédentes, à la précédente pour la réélection d'Obama, un tout petit peu plus. Donc en fait, il y a des gens qui se sont dit, bah, si ça se trouve, si Hillary Clinton elle a perdu, c'est parce que les gens, on va dire entre guillemets de gauche aux États-Unis, enfin, les démocrates, ne sont pas allés voter. Ouais, c'est le truc, voilà.
Il y a toujours cette idée du... Il y a le petit côté, on va pas aller voter parce que elle va gagner de toute manière, voilà. Donc il y a pas besoin de se déplacer.
Ou c'est ça, quoi. Ou j'y vais pas parce que je vais à la pêche. Et du coup, et voilà, mais du coup, en fait, il y a donc un journaliste du Washington Post qui s'est posé la question de savoir si des études sérieuses, alors pas des sondages à 1000 personnes, mais des études sociologiques avaient été faites sur les abstentionnistes. Et en fait, il a découvert que contrairement à ce que disent tous les journalistes, ça a été fait. Et qu'en fait, il y a effectivement des études qui ont été faites un peu partout dans le monde sur les abstentionnistes. Et donc, il a gratouillé ça aux États-Unis en premier lieu, et il s'est rendu compte qu'en fait, eh ben, les abstentionnistes, s'ils allaient voter, ils voteraient exactement comme les gens qui votent. C'est-à-dire qu'en fait, la proportion était à peu près la même chez les gens qui ne vont pas voter que chez les gens qui sont allés voter. Prenons un exemple, vous avez trois candidats, il y en a un qui fait 50%, l'autre qui fait 20% et l'autre qui fait le reste. Et ben, en fait, dans les abstentionnistes, vous aurez exactement la même répartition de gens qui seraient allés voter pour ces trois candidats. Et en fait, ben, ça veut dire que abstention ou pas abstention, vous auriez à peu près le même résultat. Donc le vieux mirage qui revient à dire que quand la gauche elle gagne pas, c'est parce que les gens qui sont abstentionnistes sont tous de gauche, ou que quand la droite elle gagne pas, c'est parce que les gens qui sont abstentionnistes sont tous de droite, c'est du flan. Très clair, c'est vraiment c'est du flan. Ça ne tient sur rien. Toutes les études, alors c'était aux États-Unis, il y en a une en Angleterre, il y en a qui ont été faites en France, en Suède. Donc il a un petit peu gratté un peu partout, ce journaliste, et s'est rendu compte que toutes les études allaient dans le même sens, c'est-à-dire que quand les gens ne vont pas voter, bah c'est juste qu'en fait ils croient pas à ce système-là, ou alors c'est juste qu'ils se sentent pas représentés par les gens qui se présentent, mais qu'en fait, eh ben ils sont pas tellement différents des gens qui vont voter. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'arrêter de mettre tout sur le dos des abstentionnistes. Alors ça veut dire quoi ? Et ben ça veut dire que quand le populisme monte, ben c'est juste que les gens deviennent populistes en fait, hein. Et que quand l'extrême droite monte, et ben c'est juste que l'extrême droite elle convainc. Et que quand la gauche elle monte, ben c'est juste que la gauche elle convainc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc plutôt que de chercher en permanence des boucs émissaires pour la raison pour laquelle on ne gagne pas, vous savez, c'est toujours le truc, hein, je sens que quelques candidats à une présidentielle qui arrivent bientôt vont nous sortir que s'ils sont pas passés au second tour, c'est à cause des abstentionnistes. Donc préparez-vous à leur dire non, ta gueule connard. Mais en fait, voilà. C'est vraiment l'idée un petit peu farfelue. Et en fait, c'est juste parce qu'on se remet pas en question. Et le « on » étant les gens qui font de la politique au sens large, que ce soit via les élections, que ce soit dans d'autres, sous d'autres formes politiques, on est toujours en train de dire « c'est la faute des autres, si ». Ben non, en réalité, si on n'est pas compris, c'est qu'on ne convainc pas. Parce qu'en fait, toutes ces études démontrent qu'en réalité, quand quelqu'un a un discours politique clair, convaincant, alors quel que soit le discours, je veux dire, moi je suis pas forcément content que des gens plutôt libéraux convainquent, par exemple, mais quand on est clair et qu'on est convaincant, et ben en fait les gens vous écoutent. Et quand on n'est pas convaincant, ou quand on est arc-bouté sur nos micro-milieux, comme il disait dans les études, et ben en fait les gens n'ont pas envie de nous écouter parce qu'ils pensent que vous êtes déjà trop éloigné d'eux. Voilà, c'était les deux trucs à retenir de ces études, et je trouvais ça très drôle, parce que je me dis, ben, vu que ça fait quand même maintenant à peu près une bonne quinzaine de jours, parce que là c'est bien revenu ces 15 derniers jours, qu'on nous remet les abstentionnistes sur le dos à toutes les sauces, messieurs et mesdames les journalistes, messieurs et mesdames les politiques, si vous pouviez changer de disque, ce serait bien, commencer à faire vraiment autre chose que de condamner les autres pour ce qui est en fait de votre fait. Si vous ne, les gens ne votent pas pour vous, c'est que vous ne convainquez pas. C'est dommage, hein, mais c'est la vie. Voilà, je voulais juste parler de ça parce que je trouvais qu'il était temps de réhabiliter ces méchants abstentionnistes. Bah ouais.
Ouais, oui, je vais pas te dire le contraire.
Non, moi, je trouve ça. J'étais très loin, enfin, je faisais partie des gens qui pensaient qu'il y avait plus de poids chez les abstentionnistes d'un côté ou de l'autre.
En fait,
donc je suis très très surpris, mais enfin, ça me semble en même temps très normal, mais tu vois, je trouve ça génial qu'il y ait eu des vrais sondages, parce qu'en plus, tu nous avais donné un peu les chiffres.
Ouais, alors ces études sociaux, elles sont faites entre 10 et 30 000 personnes, donc c'est des gros panels, c'est fait par plusieurs universités en même temps, c'est pas, voilà, on n'est pas sur du 1002 personnes de l'institut je sais pas quoi, là on est vraiment sur un truc où ça prend plusieurs années, c'est vraiment, voilà, c'est avec des interviews, on va voir les gens, on les a en face à face, ça prend du temps, mais sauf qu'en fait, eh ben, ces études qui sont plus précises démontrent juste qu'en réalité, bah, l'abstentionniste, il n'est pas différent du votant, et qu'au final, c'est logique, quoi. Je veux dire, pourquoi d'un seul coup, le mec ou la nana qui s'abstient, elle serait forcément différente du mec ou de la nana qui va voter. Je sais pas, c'est un truc, voilà. Et ben voilà. Mais c'était juste pour rappeler ça.
Après, moi, je me demande ce que ça donnerait si justement tous les abstentionnistes allaient voter blanc. Bah, c'est-à-dire, voilà, de montrer qu'il y a un acte de vote démocratique. Bon, je ne suis pas forcément.
Il y a des pays où ça
pour
marche.
Ce système, mais voilà, il y a des pays où en effet le nombre de votes blancs a conduit à une réélection, un nouveau, voilà.
Parce qu'ils sont comptés comme un candidat, donc quand le candidat blanc arrive en tête, c'est un peu embêtant. Par contre, dans des pays où c'est comme nous, juste compté au hasard, ça a un poids, on va dire, parce que ça se saura, ça se voit. Par contre, ça ne change strictement rien au résultat d'une élection. En France, parce qu'en fait, on ne prend que les votes exprimés. Mmh. Donc en fait, d'ailleurs, c'est d'ailleurs un truc bizarre, il y a des gens qui disent le pourcentage, par exemple, de l'extrême droite augmente parce que les gens ne vont pas voter. Sauf que ça ne tient pas mathématiquement, vu qu'on ne prend que les votes exprimés. Mmh. Vous voyez, c'est... Voilà.
Oui, ils font 25% des,
Votes exprimés. Des votes exprimés, en fait. Faut pas 25% des votants. Enfin, des
votes exprimés comptés.
Voilà, des votes exprimés comptés. Ils font 25% des votants exprimés. Donc, voilà. C'est intéressant. Mais c'était juste pour réhabiliter. Hein, parce que je trouve qu'on est méchants avec ces gens.
Tu serais pas un petit peu abstentionniste, toi ?
Si, mais révolutionnaire, en plus. Ça, c'est un autre problème. Musique ?
Oui. Ah, bah, ok.
Allez, Chicken. We'll be right back. mes petits poulets. Ça va ? Bien, de retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu, radiocanu.org. C'était donc Space Art Tribute avec Space Chicken. C'est complètement barré, mais j'aime bien. Voilà. Et je suis peut-être tout seul à aimer, mais moi je l'aurais passé. C'est l'avantage de venir faire de la radio. Voilà. C'est tu peux point. Aussi le faire, toi qui es de l'autre côté du poste.
C'est ça. Ouais. Justement, tu peux nous faire écouter les trucs que tu aimes. Que les autres détestent.
Exactement.
Eh ouais.
Il y a ce petit avantage. Bon, allez, les brèves, on y va. C'est ouais. Parti. Lundi.
Ouais, ben lundi, comme tous les lundis depuis avril 2015, ça se passe à la Lutine, c'est la permanence juridique de soutien aux sans-papiers, et la Lutine, c'est toujours au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement, et c'est de 18h30 à 20h tous les lundis.
Ensuite, ça commence mercredi, c'est du 15 au 29 mars 2017. C'est le 33e reflet du cinéma ibérique et latino-américain. C'est au cinéma Le Zola. Alors, Le Zola, c'est au 117 cours Émile Zola. Métro, je ne sais plus.
République,
voilà, merci. Et donc, comme chaque année, c'est un petit peu un panégyrique de tout ce qui se fait de bien et de super bien dans le cinéma ibérique et latino-américain. Il faut réservé, je vous le conseille, voilà. Donc il faut voir auprès du
site. Sur un site internet.
Ouais, c'est le site du cinéma Le Zola. C'est pratique. Et puis sinon, vous pouvez appeler au 04 37 43 05 87 04 37 43 05 87 ou lesreflets-cinéma.com.
Il y avait beaucoup de chiffres.
Hein. Il est super lent ce numéro.
04 37 43 05 87.
Mais oui.
Voilà.
On taquille.
Et sinon, écoutez Visage d'Amérique Latine tous les samedis matins sur Radio Canu de 10h à midi. Vous aurez plein d'infos sur ce festival. En général, ils reçoivent des gens et tout, c'est cool.
Ouais. Et ça continue le jeudi 16 mars, ça sera à la MJC de Villeurbanne à 19h et c'est la deuxième soirée du cycle Que devient la colère des peuples. Et là ça sera une soirée de projection des lois et des hommes de Loïc Jourdain. Alors vite fait, rapidos, le synopsis, c'est en vertu de la réglementation européenne, les pêcheurs de l'île d'Inish Boffin en Irlande, se retrouvent dépossédés de leurs droits de pêche. Et G. O'Brien, à la tête d'un groupe d'insulaires, sollicitera l'aide d'experts internationaux et d'ONG. Il mènera une croisade européenne le conduisant jusqu'au Parlement à Bruxelles et fera face aux lobbies pour faire entendre leur voix. Ça se passe, comme je vous l'ai dit, à la MJC de Villeurbanne. C'est à 46 cours Jean Damido. Et il y a plein d'arrêts de métro qui s'arrêtent pas loin, donc je vous laisse...
Métro A flashé.
Ouais, c'est voilà. Ça, c'est 3, c'est 11.
Tu as oublié de dire que c'était gratuit, surtout.
Ah, pardon. Oui. Ben voilà, c'est dit. Et ben la suite...
Samedi 18 mars,
c'est ça.
Il y a une action antinucléaire à Lyon. C'est à l'appel de la coordination Stop Buget, une grande action contre le nucléaire de 13h à 17h sur les ponts lyonnais et à 17h30 place Pradel. C'est pour exiger l'arrêt immédiat de la centrale du Buget. Nous vous appelons à agir pour éviter une catastrophe nucléaire. Voilà, il faut aller sur le site Stop Buget et vous aurez tous les ponts et tout, où il faut aller, à quelle heure et tout, pour déployer quelques banderoles, faire un peu de bruit, tout ça.
C'est ça. Voilà. On continue, samedi 18, vous vous souvenez, la semaine dernière, ouais. On avait reçu... Tinan et Sovat. Qui nous parlait du Laos. Et ben là, c'était une soirée, on en a parlé la semaine dernière déjà vite fait. C'est une soirée de découverte autour du Laos, la bouffe, les danses, etc. Et je pense que pour les plus militantes et les plus... si vous voulez en savoir un petit peu plus politiquement, je pense que c'est aussi à ce moment-là que vous pourrez vous rapprocher de militants et militantes. Donc c'est un truc où il y a de la bouffe et tout, hein, c'est vraiment tout ça. C'est à Tenay, c'est dans l'Ain. Alors,
faut pas de vaccin non plus, on peut y aller.
Oui, c'est à une heure.
Voilà, pas une heure de route.
Voilà, ça commence à 18h30. Y a un numéro pour réserver. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez envie d'y aller, on mettra le numéro sur le blog de la causerie. Parce qu'on va pas donner le numéro là tout de suite à toutes et tous, hein, même si c'est public, mais quand même. Donc voilà, donc c'est soirée autour du Laos à Tenay dans l'Ain à partir de 18h30 le 18 mars.
Il y a un tarif ?
Y a 20 euros pour adultes avec le repas et c'est 10 euros pour les enfants de moins de 12 ans, le repas inclus. Et les boissons ne sont pas incluses.
C'est mieux de le dire. Ouais, les gens ne le découvrent pas en arrivant.
C'est vrai.
Voilà, par contre, les connaissants, 20 euros, vous aurez rentabilisé pour le repas. Largement. Non,
l'idée, c'est aussi d'amener des moyens pour l'association Alliance pour la démocratie au Laos qu'on a reçue la semaine dernière. Donc voilà.
Et voilà, et on termine avec la dernière news. Eh ben, c'est moi qui l'ai. C'est la causerie de la semaine prochaine, la 195e. Eh ben, on recevra Georges. Vous le connaissez maintenant. Ça fait quand même pas mal d'émissions qu'il vient
squat.
Faire. Ouais, c'est vrai.
Tous les trois mois.
C'est vrai, c'est ça. Tous les trois mois. Donc, il est astronome amateur. Et logiquement, si j'ai tout bien saisi, cette fois-ci, il devrait nous parler du matos qui est utilisé, le matériel pardon, qui est utilisé par les amateurs, par les professionnels, les différences qu'il y a entre tout ça, mais aussi des découvertes qui ont été faites par les amateurs et qui ont ensuite été affinées, précisées par les pros.
S'il a le temps, je crois.
Voilà. Ah, si il a le temps.
Comme d'hab, quoi, avec Georges.
Et ben là, je viens de lui foutre la pression. Et c'est tout. Ben voilà, je crois qu'on vous a tout dit.
Oui.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Oui. Je vais juste présenter le titre avec lequel on se quitte.
Ouais.
Du coup, tu as fait un sujet sur l'excision et je tiens à remercier Bintou, qui est une de mes camarades syndicales, qui m'a fait passer un titre de la jeune Lati, qui est burkinabé, donc du Burkina Faso, et qui, à l'époque où elle a chanté ce titre, avait 10 ans. Aujourd'hui, elle est un petit peu plus âgée. Hein, c'était 2013, donc elle a 14 ans aujourd'hui. Elle continue son combat contre l'excision. Elle a écrit un titre qui s'appelle Excision et on va se quitter avec. C'est des paroles très dures, mais voilà, c'est au moins ça a le mérite d'être clair.
Bah, c'est une réalité.
Oui.
Et bien voilà, on se fait des bisous, on vous souhaite bon courage, tout ça.
Oui, une bonne semaine.
Ben ouais.
Voilà, pleine de bonnes choses.
Et du courage.
Merci. Et de la lutte.
Merci Clara pour la technique.
De rien.
Et bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine, tout ça, des bisous, au revoir.
Salut,
bisous.
Bisous.
Latifa, j'ai 10 ans et je vais vous raconter l'histoire de Awa. Awa a 7 ans. J'ai choisi Awa, mais c'est aussi l'histoire de Raïma, de Bintou ou de Limata. Awa est une petite fille presque parfaite, intelligente, jolie, coquette, qui aime bien faire la fête. À l'école, elle est la première. Et à la maison, elle n'est pas la dernière quand il faut aider maman à préparer, à nettoyer ou à laver. Un soir, sa mère lui a dit qu'elle devait voyager. Aller dans un village, rencontrer des étrangers, connaître une nouvelle tante d'une branche de la famille éloignée. Awa était très contente de toutes ces nouveautés. Un jour, Awa n'a pas compris pourquoi elle avait eu double ration de lait. Sa mère l'a serrée dans ses bras. Elle l'a embrassée et elles sont sorties. Ensemble, elles ont marché. Elles parlaient, elles riaient. Mais plus loin, une vieille femme était là qui les attendait. Dans la tête, un œil très sévère et elle la regardait. Elle a levé la voix, parlé méchamment et sa mère a relevé sa robe tout simplement. La lame de rasoir brillait entre ses mains décharnées. Awa ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle criait, elle pleurait, sa mère écartait ses jambes. La vieille femme se fâchait et hurlait. L'effort dégaillait ses vilaines dents. Ses mains luisaient de sang. Ça se passait dehors. Une fois fini, les femmes sont parties, l'ont laissée seule, abandonnée à son triste sort, affolée dans le vent, le corps meurtri. Cette femme, l'air de salut du sorcier, lui a fait passer au dessin animé qu'elle regardait souvent à la télé. Ici aussi, les princesses ont des ennuis. Aurore se pique le doigt et s'endort dans la nuit. Mais dans les films de Walt Disney, il y a toujours un prince pour venir les sauver. Ah ouais, et tout seul, elle, et personne ne lui vit une idée. Ses lèvres et sa vulve ont été retirées. De ses organes de futur génétiste, il ne reste plus qu'une grande cicatrice. La douleur est trop forte, et pour l'oublier, Awa se force à essayer de penser. Un soir, quand ses parents croyaient qu'elle dormait, il avait entendu les grands qui parlaient. Ils disaient qu'une fille qui n'est pas excisée n'est pas propre, qu'il faut tout retirer pour garder sa virginité, que si on ne fait pas ça, elle ne pourra pas se marier. Elle sera bannie du village et mise au rang de prostituée. Elle avait beaucoup réfléchi, mais n'avait pas compris. Maintenant, elle savait. Elle comprenait ce qu'on lui avait fait. Mais pourquoi tant de violence? 7 ans, c'est le temps de l'innocence, pas le temps de la souffrance. La douleur s'estompait. Elle se sentait flotter. La sensation presque agréable de liquide chaud qui doucement l'entourait. Mais malheureusement pour elle, c'était son sang qui se vidait. Des étoiles plein les yeux, elle regardait les cieux. Ses paupières devenaient lourdes, elle avait envie de dormir. Et calmement, elle n'a pas senti sa vie partir. Awa avait 7 ans quand elle nous a quittés. Une nuit, seule, au pied d'un rocher. Les gens diront que c'est la fatalité, que c'est Dieu qui a décidé de la rappeler, mais c'est loin d'être la vérité. En décidant de la faire exciser, c'est sa mère, son père ou une tante. En fait, c'est toute la société et le poids de cette ignoble tradition qui l'ont assassinée.
Excision, excision.